texte. J'ai choisi ce texte pour la prédication parce qu'on l'avait médité à la semaine de prière pour l'unité. Et que j'ai déjà prêché dessus à l'église du Moutier, mais il m'est venu encore d'autres pensées en méditant ce texte plus longuement. Donc nous prenons ce texte dans Michée au chapitre 6, les versets 1 à 8. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Debout, engage un procès devant les montagnes, que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès du Seigneur, et vous, inébranlable fondement de la terre. Voici le procès du Seigneur avec son peuple, avec Israël, il entre en débat. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi! En te faisant monter du pays d'Égypte, en te rachetant de la maison de servitude, en t'envoyant comme guide Moïse, Aaron et Myriam, mon peuple, rappelle-toi donc ce que tramait Balak, roi de Moab, ce que lui répondit Balaam, fils de Béor. Le passage de Chittim à Gilgal, et tu reconnaîtras alors les justices du Seigneur. Avec quoi me présenter devant le Seigneur, m'incliner devant le Dieu qui est haut, élevé? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, rien d'autre que respecter le droit, aimer la grâce et t'appliquer à marcher modestement avec ton Dieu. Il y a trois parties dans ce texte. Une première partie, Michée doit, de la part de Dieu, transmettre une parole de contestation. Dieu conteste ce que le peuple pense de lui. Ça, c'est très intéressant que souvent les combats, ça se passe dans notre tête au sujet de ce que nous pensons de Dieu. Et Dieu entre en contestation avec ce que nous pensons de lui. Et qu'est-ce que Israël pensait de lui? Israël pensait de Dieu que c'est vraiment fatigant de marcher avec Dieu et qu'on ne reçoit pas grand-chose en retour. Et que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Nous avons toutes sortes de pensées concernant Dieu, et aussi nous concernant nous-mêmes après. Car ce que nous pensons de Dieu et ce que nous pensons de nous-mêmes, c'est lié. C'est ce que dit Calvin dans les premières phrases de l'institution chrétienne. Si vous voulez connaître l'homme, il faut connaître Dieu. C'est lié, la connaissance de Dieu, la connaissance de nous. Fausse connaissance de Dieu, fausse connaissance de nous-mêmes. Nous l'avons entendu dans l'épître aux Corinthiens. Paul dit, alors, quand viendra ce qui est parfait, je connaîtrai comme je suis connu. Nous nous connaîtrons vraiment quand nous connaîtrons Dieu, parce que lui nous connaît de la bonne façon. Il nous connaît avec amour. Et Dieu entre en contestation avec beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai remarqué que dans les paroles que Dieu dit à Israël, il y a deux fois « mon peuple » au verset 3 et au verset 5. « Mon peuple !» Il y a beaucoup de tendresse quand Dieu dit ça. « Mon peuple, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Et écoutez aussi la question, l'insistance de Dieu dans cette question au verset 3, il dit « Mais réponds-moi !» Dieu est surpris parce qu'on peut penser de lui après tout ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Eh bien, il rappelle la sortie d'Égypte, Moïse, Aaron, Myriam et Balaam. Ça, c'était des histoires archi connues par les Israélites. On pourrait dire que c'est le credo basique que tout le monde connaît, comme nous aujourd'hui. Ce serait pareil si un prophète venait nous dire de la part de Dieu, mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? Quand je l'ai ressuscité Jésus d'entre les morts, quand je l'ai donné sur la croix pour toi, pour que tes péchés soient effacés, quand je l'ai ressuscité pour que tu puisses vivre une vie nouvelle, une vie d'être humain, digne d'être humain, qui peut marcher avec moi et faire l'amour que j'ai pratiqué, le faire aussi, comme Jésus a marché. Quand je l'ai ressuscité Jésus, rappelle-moi, est-ce que tu te rappelles ça? Ben oui, on dira ce prophète, mais tu nous rappelles le credo, là, on dit ça tous les dimanches dans le credo, je crois en Dieu, il a ressuscité son fils d'entre les morts, le troisième jour, il est monté au ciel ensuite, et il dit, ben oui, mais est-ce que tu reconnais, Dieu dit, est-ce que tu reconnais les justices de Dieu dans mes actes? Ce sont des actes historiques que Dieu a posés dans l'histoire. Ce sont des actes par lesquels il a montré combien il veut être juste et nous justifiant, nous donnant la justice pour que nous puissions pratiquer la justice. Afin que tu reconnaisses les justices du Seigneur, rappelle-toi, Israël, ce que je t'ai fait avec Moïse, direction politique, Aaron, direction religieuse, c'était le prêtre. Myriam, c'était celle qui donnait les paroles de Dieu, qui entraînait dans la louange, dans la joie. Reconnaît ainsi les justices du Seigneur. Et puis Dieu ajoute l'événement de Balaam. Balaam, c'était l'un des plus grands sorciers que la terre ait jamais connu, qui a été appelé à la rescousse par le roi de Moab pour maudire Israël. Et puis, tenez-vous bien, toutes les malédictions qu'il a prononcées se transformaient en bénédictions. Impossible de maudire le peuple de Dieu, de lui faire subir un sort fatal. Impossible de le lier spirituellement par des puissances infernales. Eh bien, c'est exactement la même chose que Dieu nous a donné en Christ. Pourquoi on dit que Jésus est monté au ciel? Pourquoi? Pour, je le dis souvent, ça, pour qu'il soit débarrassé de notre condition humaine qui est tellement misérable. Mais non, pour que notre condition humaine soit portée par lui. Et au plus haut niveau, au plus haut niveau, nous sommes avec le Christ. Alors il n'y a aucune malédiction, aucun sort, aucune fatalité qui peut nous toucher. Alors elle peut nous toucher si on se laisse faire, mais nous n'avons pas à vous laisser faire. La malédiction ne touche pas le peuple que Dieu s'est créé en le faisant sortir d'Égypte ou bien en ressuscitant Jésus d'entre les morts. La malédiction ne peut pas nous toucher. C'est la bénédiction que Jésus nous laisse. Uniquement la bénédiction. Alors le peuple, je passe à la deuxième partie de ce passage qui commence au verset 6, le peuple se dit, mais avec quoi je vais me présenter maintenant devant le Seigneur? Et le peuple semble avoir compris qu'il a eu tort de penser Dieu de façon perverse, de l'imaginer méchant. D'imaginer que c'est fatigant de marcher avec Dieu. C'est l'inverse qui est vrai, c'est Dieu qui porte son peuple. Comme on nous dit dans la première chose, dans l'évangile de Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit « Voici l'agneau qui porte, on peut dire porte ou ôte le péché du monde. Il le porte, lui. » Donc c'est Dieu qui porte l'être humain. C'est pas l'être humain qui fait le maximum d'efforts, c'est Dieu. Donc tout d'un coup, ils réalisent qu'ils sont dans le péché, dans leur façon de penser de Dieu, et donc avec les actes mauvais qui s'en suivent. Et ils entrent dans une culpabilité excessive. Ils se disent, bon, on est fautif, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à ce Dieu qui est tellement haut? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter? Tous les béliers, des milliers de béliers, alors je pense qu'ils auraient Ils ont exterminé tous les béliers alors d'Israël, parce que des milliers, il n'y en a pas des milliers dans un pays. Même ici en Auvergne, les bons béliers, ça doit se compter en quelques dizaines. Eh bien, est-ce qu'on offrirait tous les béliers, des taureaux, les taureaux aussi, hein, et donc ils auraient offert tous les des taureaux qu'on présente au salon de l'agriculture ou au sommet de l'élevage à Cournon. Chaque année, il y a le sommet de l'élevage, on voit des taureaux. C'est 1,5 tonne. Il n'y en a pas 36 des taureaux comme ça. Alors, est-ce qu'on offrirait des hectolitres d'huile d'olive? Est-ce qu'on rassemblerait tout ce qu'on a de meilleur pour offrir tout ça à Dieu, le faire brûler en holocauste devant Dieu pour que notre péché soit effacé? Ils sont dans une culpabilité monstre. Et même, le comble, ils imaginent même, est-ce que peut-être on doit offrir notre fils aîné dans chaque famille pour que Dieu nous pardonne? Dans beaucoup de religions, on offre des sacrifices humains. Plus aujourd'hui, quoique dans la religion des satanistes, c'est un des objectifs. Alors, qu'est-ce que Dieu répond à cette culpabilité de vouloir tout sacrifier pour Dieu? Verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi. Rien d'autre que faire le droit, aimer la grâce et t'appliquer à marcher modestement avec ton Dieu. Et bien, ce qui m'a surpris dans cette réponse de Dieu, c'est qu'il ne va pas du tout dans le sens de la culpabilité exprimée par le peuple en réponse à la parole du prophète. Dieu rappelle tout simplement ce qu'il a déjà dit. On t'a fait connaître. Ils savent déjà. Tu le sais déjà. Ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur attend. Et là, c'est adressé à tout homme. Ô homme, ô Adam, à travers Israël, Dieu s'adresse à tout être humain. C'est pour ça que nous lisons dans la Bible l'histoire d'Israël. Parce que c'est une histoire qui, à travers ce que Dieu fait avec Israël, à travers cette histoire, tout être humain peut découvrir Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et c'est rien d'autre. Il y a trois choses qui sont dites. Faire le droit, aimer la grâce, t'appliquer à marcher modestement avec ton Dieu. Trois choses, trois commandements. Vous savez qu'il y en a eu 613 qui sont donnés au Sinaï. Et Moïse en a donné 611, parce que les deux premiers sont entendus directement de la bouche de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est entendu directement de la bouche de Dieu, d'après les rabbins. Et les 611 autres commandements ont été donnés par Moïse. Dieu rappelle, vous voyez, même dans le premier commandement, il y a le rappel de ce que Dieu a fait. Nous aussi, nous devons nous rappeler ce que Jésus a fait. Il est mort, il est ressuscité. Il est vivant pour nous. Nous devons nous rappeler cela, que ça nous motive dans la vie pour marcher avec lui, pour marcher avec lui chaque jour. Comme Israël est motivé pour marcher avec Dieu tous les jours de l'histoire qui va s'écouler, parce que Dieu l'a fait sortir de l'esclavage. Et Dieu lui a rappelé ça lui-même par sa bouche en disant, mais je t'ai fait sortir de l'esclavage. Et pour te faire sortir de l'esclavage, j'ai même utilisé toutes les forces de la nature. Vous savez que la mer s'est fendue en deux. Dieu est le Dieu créateur et il a créé les Hébreux comme peuple. C'est une création de Dieu. C'est le pasteur Duchelet qui nous a rappelé ça une fois à la réunion de prière. La sortie d'Égypte est une création. C'est un moment historique et c'est aussi un moment de création. C'est pour ça qu'on célèbre en même temps le Dieu sauveur et le Dieu créateur. Comme nous, nous croyons quand Dieu a ressuscité Jésus, c'est vraiment une création. Il a ressuscité le corps de Jésus. Jésus a un corps ressuscité et nous faisons partie de ce corps. C'est une création que nous sommes, une église. Ça, c'est une création de Dieu et en même temps un acte salvateur, un acte par lequel Dieu nous sauve en ressuscitant Jésus. Il est créateur et sauveur. Hier, on avait le conseil presbytéral qui va être installé tout à l'heure par Alain Chapon, qui est venu de Clermont-Ferrand, les présidents du conseil de Clermont. Et c'était l'âge moyen des conseillers presbytéraux a fortement chuté depuis que Yvan est entré dans notre conseil. Donc c'était ce jeune homme qui nous a partagé la parole de Dieu. Et il nous a dit quelque chose que j'ai retenu comme venant de Dieu. Il nous a dit, mais est-ce que nous n'avons rien de beau à dire sur Dieu? Nous n'avons rien de beau à dire, nous, sur Dieu. Mais nous avons de belles choses à dire sur Dieu. Et c'est ce que Dieu rappelle à Israël qu'il avait oublié. Eh bien, on te l'a déjà fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi. Et Dieu ne parle pas du tout du péché dans cette réponse. Ça m'a beaucoup surpris. Nous parlons toujours du péché aux gens. Même s'il y a des méthodes d'évangélisation, on nous dit, d'abord vous dites aux gens qui sont pécheurs, ensuite vous leur dites que Jésus est mort pour leurs péchés sur la croix, et ensuite, d'abord il faut qu'ils se repentent, enfin il y a tout un... Comme s'il y avait une méthode infaillible pour évangéliser. Mais quand je lis l'évangile, comment Jésus évangélisait, il n'y avait pas de méthode. Il n'y avait pas un principe, point A, point B, point C, point D, après vous cochez, et puis après vous êtes converti après tout ça. Non, parfois il allait vers quelqu'un, il guérissait la personne, et la personne ne savait même pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et puis après elle fait son chemin, puis elle rencontre Jésus, et puis elle fait un chemin de plus avec Jésus. Parfois, oui, parfois il dit à une paralysée, tes péchés sont pardonnés avant de le guérir, mais parfois il guérit avant de pardonner. Enfin, il n'y a pas de méthode unique. Qu'est-ce que c'est évangéliser? C'est dire aux gens qui est Jésus. Nous avons de belles choses à dire sur Dieu, sur qui est notre Dieu. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi. Rien d'autre que faire le droit. Ah, ben ça c'est plutôt juif, faire le droit. Et je parlais avec des juifs un peu. Hein. Pour eux, la Bible est source de droit. C'est pas inintéressant. Parce qu'on nous dit, bon, il faut aimer les autres. Mais les gens mettent n'importe quoi dans le mot aimer. Dans la Bible précise concrètement qu'est-ce que c'est aimer. Alors vous savez ce que disent les rabbins, justement, t'appliquer à marcher modestement avec ton Dieu, ils disent, c'est accompagner les jeunes filles pauvres à leur mariage, assister à leur mariage, et accompagner les personnes démunies quand elles sont enterrées, participer au cortège funèbre des pauvres. Ils disent, c'est ça, t'appliquer à marcher modestement avec ton Dieu. Vous voyez, ils appliquent du droit, c'est-à-dire marcher modestement avec Dieu, c'est tenir compte de ceux qui, dans la société, sont démunis, pour lesquels on n'a pas de considération. Ben toi, tu auras de la considération pour ces gens-là. Et ben si tu vois une fille pauvre se marier dans ton village, bon, la société a changé aujourd'hui, on vous verra plutôt de travers si vous assistez à un mariage auquel vous n'êtes pas invité. Mais on peut retenir le principe, prêter attention à ceux qui, au milieu de qui on vit et qui n'ont pas de considération, n'ont pas de renommée particulière. Prêter attention aux petites gens qui sont parmi nous, avec lesquels nous vivons. Voilà ce que c'est de marcher modestement avec ton Dieu, d'après les rabbins. Alors donc, respecter, faire le droit, faire le droit. Et puis après, il y a une expression qui est unique dans la Bible, aimer Aimer la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer la grâce? Alors, le mot grâce, en hébreu, c'est chesed. C'est un mot difficile à vous communiquer, le sens profond. Parce que moi, je le traduis par grâce, parce que je pense que c'est le meilleur des mots français. Mais vous, suivant les traductions de la Bible, vous verrez qu'il y en a qui traduisent bonté, il y en a qui traduisent fidélité, il y en a qui traduisent loyauté, il y en a qui traduisent vérité aussi, parce que la vérité et la grâce sont souvent citées ensemble dans la Bible. D'ailleurs, c'est cité ensemble, justement, dans Michée, à la fin du livre de Michée, le dernier chapitre 7, verset 20. Tu accorderas à Jacob ta vérité et ta grâce à Abraham. C'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Vous voyez, la vérité et la grâce sont associées. Alors j'ai lu un commentaire qui dit, c'est lié à l'alliance, le mot grâce en hébreu. Une alliance, c'est s'attacher à quelqu'un. C'est, donc la grâce, ça peut être traduit par une expression, l'attachement paisible et profond d'un cœur loyal. L'attachement paisible et profond d'un cœur loyal. Voilà comment ce que Dieu nous demande d'aimer, être attaché à notre prochain. S'il nous fait du tort, restez attaché à lui, ne dites pas « je n'ai plus rien à voir avec cette personne ». Bon, il y a de la distance, mais restez attaché profondément dans votre cœur à toute personne, quelle qu'elle soit. Si elle ne veut pas vous parler, elle ne veut pas vous parler, vous restez quand même en lien avec elle dans votre cœur. Vous la bénissez, vous priez pour elle, et a fortiori vos amis. Attachement paisible et profond d'un cœur loyal qui veut toujours le bien de l'autre. Voilà comment Dieu est avec nous. Il est comme ça avec Israël, même quand il conteste, vous voyez son amour transparaît à travers la contestation. Je vous ai dit au début du culte, mon peuple, c'est deux fois, Dieu dit, mon peuple, il y a beaucoup de tendresse là-dedans, quand Dieu interpelle comme ça. Et Jésus, quand il interpelle son église, dans l'Apocalypse, il y a sept églises qui sont interpellées. À toutes, il a des reproches, sauf une, je crois, une ou deux, il n'y a pas de reproches. Mais même quand il fait des reproches, c'est avec amour, parce que c'est son église. Jésus nous dit, mon église, qu'est-ce que je t'ai fait ? En quoi je t'ai fatigué, c'est moi qui fais le plus pour toi, c'est toi qui peux marcher avec moi, avec cet attachement profond que je veux te témoigner, marche avec moi au jour le jour. C'est pas l'expression aussi est unique là, t'appliquer à marcher modestement avec Dieu, ça c'est unique aussi. On ne retrouve pas ce verbe t'appliquer, on le retrouve nulle part dans la Bible. Donc, il y en a qui disent marcher humblement. Ouais, c'est encore une connotation éthique, mais t'appliquer. Les rabbins disent, ça veut dire une vigilance. Exerce de la vigilance dans la façon dont tu marches au jour le jour. Fais attention à tes pensées. On pense souvent de travers de Dieu. Jean Calvin l'a dit, notre cerveau. C'est toujours des images tordues de Dieu, donc il faut toujours rectifier ce que nous pensons de Dieu en prenant sa parole, en construisant notre vie sur cette parole. C'est ça qui donne la meilleure façon de connaître Dieu, la parole de Dieu, parce que nous faisons toujours des fausses images de Dieu. Alors applique-toi à ne pas penser de travers, ni concernant Dieu, ni concernant ton prochain, ni te concernant. Le grand danger ne vient souvent pas de l'extérieur, ça vient souvent de nous. De nos fausses pensées constructions de pensées qui font qu'on ne marche pas avec Dieu. On marche avec nos pensées à nous. Et Dieu veut qu'on marche tous les jours avec lui. Et ça se fait modestement. Modestement. Il y a un héroïsme du quotidien qui ne se voit pas. Quand on marche modestement, ça ne se voit pas. Mais Dieu voit. Dieu, comme celui qui veut nous prendre par la main pour qu'on marche modestement. Tous les jours, chaque jour, avec lui, il est avec nous tous les jours. Alors, c'est l'installation du conseil. Vous pouvez faire votre miel, les conseillers de ça, comme tout paroissien. Je dirais, le rôle d'un conseil, c'est de veiller à ce que dans l'Église, pas seulement les gens viennent au culte ou aux réunions, mais qu'ils reçoivent ce qu'il faut pour que dans leur vie de tous les jours, ils marchent avec Dieu, ils puissent marcher avec Dieu, qu'ils reçoivent la nourriture, l'amour de Jésus pour marcher avec cet amour chaque jour de leur vie. Même, donc l'Église, c'est aussi beaucoup là où on est, là où on habite, là où on est, là dans notre famille, que les paroissiens reçoivent ce qu'ils ont besoin pour vivre au jour le jour avec le Seigneur. Amen.